Cet exposé retrace l'émergence progressive du baroque en France en tant qu'idée au début des années 50 jusque dans les années 80, alors qu'il avait un impact décisif sur la culture de la chorégraphie en France, ainsi qu'ailleurs en Europe et aux États-Unis. En circonscrivant le thème de cette étude à la France, qui sert de point de départ de la relation entre le baroque en tant que concept et la pratique chorégraphique, mon intention n'est pas de contester ou de minimiser le caractère international du baroque dans l'art ou les histoires plus anciennes de la prise de conscience du baroque en historiographie de l'art moderne en Allemagne, Italie et Amérique du Sud. Il s'agit plutôt de prendre les limites nationales et temporelles en tant que cadre pour donner un exemple du phénomène du baroque qui pourra être interprété à la lumière d'une généalogie située par rapport à l'histoire. En définitive, je me concentrerai ici sur la danse dans les années 80. Mon hypothèse de travail est que depuis les années 80, le baroque dans le domaine chorégraphique est marqué et peut être examiné à la lumière de la présence de la textualité dans la danse, avec plusieurs fonctions que j'identifie comme étant, et je vais y revenir, une fonction théâtrale imaginaire, une fonction sociologique et une fonction politico-sémiotique. Ces fonctions se chevauchent certainement, mais je les trouve utiles pour établir une cartographie initiale de la relation entre la danse, la théorie et l'écrit, qui s'est développée au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Un ensemble de textes portant sur l'esthétique, la théorie littéraire, l'histoire, la sociologie et la philosophie présage de ces fonctions au cours des 30 ans précédant les années 80. Et j'y accorderai une attention toute particulière en corrélation avec les travaux de danse des années 80. Au cours du XXe siècle et du XXIe siècle, le baroque dans la culture contemporaine, le baroque d'aujourd'hui, comme Severo Sardou l'appelait, a souvent été caractérisé par un retour, et même comme un retour répété. L'idée de retour nourrit la conviction que le baroque est un phénomène métahistorique. Je l'aborde plutôt ici comme un tournant baroque de la danse et de la culture qui peut être étudié en un temps et en un lieu particulier. Au fin de cette généalogie, donc, et afin de comprendre les effets du baroque et de la chorégraphie en termes historiques plutôt que quasi mythiques, j'étudierai ici l'époque de la France après la Seconde Guerre mondiale. Le récit littéraire et philosophique que j'offre ici de la trajectoire baroque entre 1950 et 90 est historiciste dans la mesure où il est orienté par une chronologie intellectuelle. Toutefois, les questions évoquées par le baroque ne sont pas, à proprement parler, historicistes. Au lieu de cela, elles révèlent une historicité complexe. D'une part, un référent vraisemblablement historique, celui marqué par le soi-disant retour, et d'autre part, un phénomène contemporain d'art et de critique, un tournant, venant d'être inventé en réponse au présent. À ce deuxième niveau, plus contemporain qu'ancien, la danse transforme la notion métahistorique du baroque comme retour du passé dans le présent, la remaniant et en faisant un mouvement chiasmatique entre le passé et le présent, dans la formulation autoréflexive du présent lui-même. Les années 80 sont devenues de ce qu'on peut, je pense, appeler la décennie baroque de la chorégraphie internationale. Aux États-Unis, la notion du baroque a gagné de l'importance dans le domaine de l'art à la suite de la traduction en anglais d'origine du drame baroque allemand, Ursprung des deutschen Trauerspiels, de Walter Benjamin, en 1977. Ce livre déterminant en Allemagne, enfin c'était la thèse de Benjamin, publiée en 1928, a été traduit en français en 1985. En raison de la propagation de l'épidémie du VIH-Sida, cette même décennie, les années 80, le baroque a connu deux vagues de développement aux États-Unis. La première a accentué l'allégorie sous l'influence de Benjamin. La deuxième a accentué le deuil et la mélancolie sous l'influence de la pandémie du Sida, même si le deuil et la mélancolie sont aussi des thèmes de Benjamin. Il serait opportun, enfin tout s'est fait sous le signe de Benjamin, si vous voulez. Il serait opportun de mentionner ici la version dansée de Mark Morris de l'opéra Didon et Aeneas de Henry Purcell, qui a été donnée en première à la Monnaie en Belgique en 89. Comme tout un chacun sait, l'histoire de Didon et Aeneas est une histoire d'amour et de mort, et Mark Morris lui-même a joué deux rôles, à la fois celui de Didon et de la sorcière. Cette œuvre utilise également le texte de l'opéra en relation directe avec le mouvement. Il y a un très beau article, un bel article là-dessus dans DRJ récemment, de Selby Schwartz. Le jeu avec le mouvement en relation avec les signes linguistiques du texte chanté, ainsi qu'avec le genre en tant que signe, a résonné avec les premières idées de l'un des principaux théoriciens du baroque dans les années 60 en France, l'auteur cubain Severo Sardoui. Approfondissant sur le thème du travestisme dans Written on a Body, écrit sur un corps, Severo Sardoui a écrit au sujet des surfaces significatives du corps en tant que simulation. Et je cite, « Ces plans d'intersexualité sont analogues à ceux composant l'objet littéraire. » Fin de citation. Severo Sardoui nous fait voir le lien entre travestisme et ce que Jacques Derrida a appelé la dissémination, et donc également les liens entre théâtralité et la gestualité, et ou entre le baroquisme et le post-structuralisme appréhendé de façon plus générale. Le pouvoir de la théâtralité pour créer des figures d'identité et les exprimer à travers les corps peut s'apparenter à la prolifération des significations propres à l'allégorie de Benjamin, qui, selon Samuel Weber, le fait remarquer dans son livre Theatricality as Medium, est ce qui harmonise le concept d'allégorie de Benjamin à la théâtralité. Même si Severo Sardoui nous explique que la danse est le principe du texte, il est aisé de voir, en examinant certaines pratiques de danse, que l'inverse peut également être vrai. En raison de ces caractéristiques, et sans entrer dans une longue analyse de l'œuvre de Mark Morris, je ferai concorder Didon et Aeneas à la fonction imaginaire théâtrale du baroque. Cette fonction est liée à la prolifération, la contamination et la superposition des significations, pouvant elles-mêmes être associées à la description de la trace de Jacques Derrida, qui a été à son tour liée en pensée post-structuraliste au mouvement de l'écriture et qui se rapporte également au texte de Benjamin de 28. C'est la notion de la trace est très clairement expliquée par rapport à l'allégorie chez Benjamin déjà en 28. Que le mouvement de l'écriture en lui-même puisse être qualifié de danse implique que le mouvement de la danse dans le contexte du baroque peut être expliqué par le mouvement de l'écriture. Il semble que cette interconnexion entre la danse et l'écriture à un niveau philosophique dépend du travestisme en tant qu'événement théâtral. Bon, maintenant j'ai une autre partie de ma conférence sous-titrée « Le baroque d'après-guerre, une alternative au néoclassicisme » où je veux développer un peu la notion du baroque comme articulation ou réarticulation. En France, le baroque a obtenu une reconnaissance populaire et du monde universitaire seulement après 1945, engageant alors un déplacement progressif du néoclassicisme et des implications conservatrices d'un point de vue politique pour ce dernier pendant la première moitié du XXe siècle. Et là, je vous renvoie au livre de Pierre Charpentras, « Le mirage baroque ». Je considérerai l'engouement pour le baroque dans la période immédiate d'après-guerre comme une rupture épistémologique avec le néoclassicisme. Avant la première moitié du XXe siècle, le baroque était considéré en France comme européen et non français, et tous les engagements artistiques aux traditions du XVIIe siècle s'ajustent exactement au néoclassicisme, et partant au classicisme finalement. Puisque l'objectif de cet exposé est d'échanger sur les fonctions du baroque dans la danse, il convient de revoir brièvement le rôle du néoclassicisme dans la danse classique au XXe siècle. Au cours de la transition entre les ballets dits d'époque, au début du XXe siècle, le répertoire des ballets russes, en grande partie, rendant hommage au XVIIe siècle, Pavillon d'Armide, enfin, toute une série de ballets comme ça, au début du XXe siècle, et le néoclassicisme conservateur des années 20, pense à Apollon Musagète, par exemple, on peut observer un déplacement philosophique d'un style d'époque à la suffisance d'une forme soi-disant permanente. Le ballet est précieux, écrivait T.S. Eliot en 1928, et je cite, « car il s'est inconsciemment intéressé à une forme permanente ». Ça, c'est très intéressant. Je vais répéter cette citation. « Le ballet est précieux, car il s'est inconsciemment intéressé à une forme permanente ». Fin de citation. Selon le néoclassicisme, de la manière dont je l'interprète théoriquement, la technique du ballet classique contenait des principes qui devaient être détachés des conventions théâtrales et qui l'ont caractérisé au fil du temps afin d'être plus reconnaissable en tant que création de grande importance en tant que telle, pour devenir permanente et, soi-disant, résistante au temps. Le répertoire chorégraphique peut être dépassé, mais la technique, elle, même si elle évolue toujours, a obtenu le statut de ce que Richard Wagner appelle « mythe ». Et je cite, « une forme concrète exclusive de toute imitation ». Point de citation. Une fois ce mouvement intellectuel réalisé, le néoclassicisme n'avait plus besoin d'évoquer le style de la période, car il avait situé l'aspect transhistorique ou intemporel de la technique de la danse, la soi-disant forme permanente. En se concentrant sur le mouvement lui-même, il pouvait ainsi se définir comme étant moderniste, puisqu'il avait désormais un caractère autoréférentiel. Donc voilà, on a, comme Susan Manning a dit, il y a plusieurs modernismes dans l'histoire de la danse au XXe siècle. Il y a le modernisme de la danse moderne, mais il y a aussi le modernisme de la danse classique. C'est ce qu'elle appelle « dual modernism ». L'idée de technique en tant que forme découlant du grand siècle, mais aussi le transcendant, au niveau historique spécifique du terme, a été exprimée en 1911 déjà par le critique de danse russe Akim Volinsky, pour qui la véritable valeur durable du ballet n'était ni dans son récit et ses conventions musicales, ni dans, je cite, « l'appareil vulgaire de la scénographie et des costumes », mais exclusivement dans la danse elle-même. C'est déjà dans 1911 qu'il dit ça. L'importance capitale et singulière accordée par Akim Volinsky à la danse, en excluant les éléments de production environnants, importants pour le ballet en tant que représentation théâtrale, va de pair avec le dénigrement du récit en tant que mouvement pantomimique. En d'autres termes, Akim Volinsky ne souhaitait retenir que cette partie du ballet qui transcende son propre moyen et en tant que représentation théâtrale. Les défenseurs du néoclassicisme dans le ballet pouvaient dorénavant imaginer qu'un retour des principes de la danse découverts au XVIIe siècle, tout particulièrement l'en dehors, et on a écrit beaucoup de ça dans les années 30 et autour de Liffard aussi, et avant qu'il ne s'imprègne de conventions théâtrales, était le matériau brut du modernisme en tant que néoclassicisme. Ces principes techniques de danse classique sont considérés comme l'origine pure du mouvement, libre de tout objectif théâtral particulier au-delà de leur propre déploiement. Ainsi, il ne s'agit pas tant de faire revivre les premiers travaux qui démontrent ces principes, les ballets historiques, ballets de cour, etc., mais de mettre en scène les principes eux-mêmes en tant que contenu de travaux nouvellement chorégraphiés. Comme le musicologue Martha Hyde note à l'égard de Stravinsky, Le néoclassicisme, je cite, dans tous les arts, implique un besoin de faire revivre ou de rétablir un style plus ancien, séparé du présent par une période intermédiaire. Fin de citation. Je nuancerai uniquement cette déclaration en ajoutant que le style n'est pas vraiment la problématique, mais plutôt les principes techniques. En termes d'histoire de ballet, cela évoque immédiatement l'idée qu'il y a eu un âge d'or classique suivi par une période d'intervention pendant laquelle le classicisme a été temporairement perdu ou enseveli. C'est cette vision essentiellement mythique du ballet classique dans le néoclassicisme auquel le baroque s'oppose. Et je vais essayer d'étouffer cette hypothèse. Et il le fait à travers les trois fonctions subventionnées. Imaginaire théâtral, politico-sémiotique et sociologique. J'y reviendrai. Malgré cet intérêt pour le XVIIe siècle, à l'origine de ces principes, le traitement discursif du baroque en France jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale s'est limité en grande partie, commencé à des jugements de décadence et de déclin, ou simplement de mauvais goût. Au début de ce siècle, écrivait Victor El Tapier, je cite, « On ne parlait guère en France du baroque, d'art baroque et moins encore de baroquisme. » Point de citation. Deux idées interdépendantes ont été en conséquence privées de crédibilité intellectuelle dans ce contexte. Primo, que le baroque pourrait être un phénomène bien français à la fois historiquement, pour avoir été admis comme un élément faisant partie intégrante, même si auparavant peu reconnu, de la culture française du XVIIe siècle. Deuxièmement, que le baroque est aussi une catégorie essentielle de la modernité, remplaçant le néoclassique sans abandonner la possibilité d'historicité au sein de la modernité. C'est l'ensemble de ces deux idées que je désigne comme baroque, un ensemble qui est progressivement né et a pris forme dans les décennies d'après-guerre. Voilà, maintenant, j'en viens au baroque en tant qu'articulation. Jusqu'à la fin de la première moitié du XXe siècle, la dignité de la place accordée au classicisme français du XVIIe siècle a été incarnée dans la sobriété d'une certaine conception du théâtre, de Racine, et plus tard du Corneille tardif aussi, et associée à la déclamation. La production de Bérénice de Racine par Claus-Michel Gruber à la Comédie française en 1985 est un bon exemple de la façon dont une articulation radicalement différente du classicisme, pratiquement à proprement parler dans ce cas, parce qu'il s'agit de la voix, à modeler le geste baroque en tant que catégorie critique de la modernité appliquée à un contenu historique. Les acteurs chuchotant leurs répliques prononcent sotto voce les vers de Racine tout au long de la production. L'usage de cette technique, d'abord expérimentée par Jean Cocteau dans son Renaud et Armide de 1943, qu'il a aussi dirigé à la Comédie française, entre parenthèses, ce chuchotement sur scène a créé un sens d'intimité en contradiction avec l'orientation publique de la déclamation. Il a aussi accentué la réalité corporelle de la respiration par rapport à l'instrumentalisation de la voix dans la projection du texte. Autrement dit, le geste du chuchotement a transformé notre appréhension du texte tout en le maintenant intact. L'articulation du texte par les acteurs a précédé le geste dans le sens où le chuchotement a conservé la gestuelle verbale définie à laquelle on se serait attendu de la déclamation tout en ouvrant en même temps de nouveaux domaines de signification et d'interprétation. Le mot parlé sur scène dépend de la respiration pour être dit, cela est vrai, mais dans ce cas, le travail sur la respiration était en concurrence avec celui sur les mots dans leur dimension historique, textuelle et idéologique. Nous pouvons y voir un principe du baroque en tant que classicisme critique. Le pouvoir de l'articulation est celui qu'a l'action sur le produit culturel pour à la fois le conserver et le transformer en le réexprimant ou le réarticulant autrement. Je crois qu'il y a faire un départ entre expression et articulation, là, qui est un peu délicat. Je ne veux pas insister plus longtemps sur l'aspect oral de l'articulation ici, même si la voix a toujours été dans l'histoire une métaphore importante du mouvement corporel, j'en passe, car il faudrait aussi considérer l'articulation en tant qu'espace d'inaction, ce que je voudrais appeler inaction. L'inaction consiste à donner sous forme d'action ce qui a eu une existence antérieure en dehors de l'action, et donc à le réarticuler. Le mot inaction a la force du préfixe en, en, mise en action, et de la répétition incarnée par action, ou réincarnée par action. L'inaction est une forme, autre forme gestuelle que l'articulation peut avoir. Comme Ted Warburton l'a montré, dans un article aussi de DRJ, les danseurs marquant la chorégraphie pratiquent un certain chuchotement, en s'abstenant de faire le geste en entier du mouvement. Marquer une phrase, note Ted Warburton, peut en réalité servir de levier pour projeter mentalement une structure plus détaillée sur l'architecture et la poésie de la danse. Fin de citation. Le néoclassicisme ayant été remis en question pendant la période d'après-guerre, le baroque a menacé non seulement de redéfinir la culture contemporaine d'un point de vue historiciste, mais aussi d'entamer une relecture radicale de l'histoire culturelle en elle-même. Le baroque, dans la mesure où il englobe l'art contemporain et historique, regroupe ces deux projets, ce qui est à l'origine du vertige que Walter Benjamin a souligné afin d'interpréter le baroque dans son livre Drame Hochsprung. Je cite... Dans les tentatives improvisées de rendre présent le sens de cette période, le XVIIe siècle, on retrouve sans cesse ce sentiment caractéristique de vertige qu'inspire le spectacle de sa profonde intelligence prisonnière de ses contradictions. Je répète, c'est une citation importante. Dans les tentatives improvisées de rendre présent le sens de cette période, on retrouve sans cesse ce sentiment caractéristique de vertige qu'inspire le spectacle de sa profonde intelligence prisonnière de ses contradictions. Point de citation. Je considérerai ces contradictions dont parle Benjamin comme les hétérotemporalités en jeu entre l'historicisme et l'historicité, contenues dans le baroque, comme Benjamin l'indique, prisonnier de vertige. Le vertige découle, d'après Mika Ball, de ce qu'elle appelle l'histoire absurde, preposterous histories. Ce qui est particulièrement baroque, je la cite, à propos de cette construction du baroque, est le point de vue impliqué par deux positions mobiles. Point de citation. Mika Ball précise ensuite que cette double mobilité devrait être qualifiée d'enchevêtrement, entanglement. Toutefois, ce terme implique, enchevêtrement, implique une lutte entre deux positions clairement définies. Alors que je suggère que tout enchevêtrement devrait découler de l'instabilité constitutive par rapport à l'endroit où l'on se situe dans le temps. Donc chaque position, mobile ou non, est en fait instable aussi. Le terme vertige est peut-être encore le plus approprié. Je suggère d'aborder le baroque du XXe siècle depuis de telles perspectives hétéro ou intertemporelles. D'une part, le baroque contemporain était une nouvelle expression du classicisme et donc un néoclassicisme alternatif. D'autre part, le baroque agit comme ce que j'ai appelé ailleurs une inversion figurative. En d'autres termes, comme des projections, je cite, je me permets de me citer, projections et déformations qui se multiplient dans l'espace entre l'original et la copie. La formulation d'une telle rencontre déroutante peut se trouver dans l'idée freudienne de l'après-coup, Nachträglichkeit. Si par historicité nous entendons une conscience selon laquelle le présent est forgé par le passé historique, celle-ci s'accompagne souvent de la sensation d'effet tardif, où nous nous sentons déterminés par et à la mesure de ce qui vient après. N'est-ce pas? Nous sommes l'après. Le vertige découle de la temporalité de l'après, devenant, selon Rainer Nagel, constitutif de l'avant. En tant que signifiant, le baroque nommerait à partir de là quelque chose se dépassant en tant qu'événement ou référent historique, étant donné que le terme lui-même est devenu un nom critique plutôt qu'historique. En partant de là, le baroque pourrait être considéré comme un positionnement à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la réalité historique qui constitue le présent, et donc intérieur et extérieur au contemporain en tant que tel. L'exemple d'Agon. En 1957, Victorel Tapier a clarifié à Paris la situation du baroque d'un point de vue historique dans son livre « Baroque et classicisme », au même moment où Georges Balanchine a chorégraphié à New York « Agon ». Si l'on reprend la description la plus authentique et éprouvée du baroque en tant que perle irrégulière, nous pouvons observer le phénomène d'irrégularité géographique caractérisant le ballet néoclassique dans son adhésion et éloignement à la forme classique. C'est-à-dire il y a déjà du baroque dans le soi-disant néoclassicisme, évidemment. Mais c'est désavoué. De l'importance accordée par Serge Liffard à l'axe horizontal plutôt qu'au plan vertical, au déplacement de Georges Balanchine du centre de gravité du danseur et la mobilité accrue des hanches, les irrégularités du ballet néoclassique transgressent et réaffirment la norme. La forme symbolique classique est soumise à la déformation, mais n'est pas entièrement laissée pour compte. L'aberration fait toujours référence à la normalité suspendue ou réexprime la normalité, réarticule la normalité en termes d'éloignement. En ce sens, les déformations modernistes du formalisme classique sont un baroque renié ou désavoué qui est en place d'un point de vue chorégraphique depuis les années 20 avec Apollon Musagète de Balanchine. En même temps que cela, donc ça met en question évidemment le soi-disant conservatisme du néoclassique. Mais ça, c'est tout un autre sujet. En même temps que cela, l'épurement de la théâtralité pour ce qui est du décor, des costumes et des gestes, vers l'abstraction des récits très connus dans le travail de Balanchine, montre à quel point le néoclassicisme en ballet pourrait à un moment et en même temps occuper la position du style moderniste. C'est-à-dire, sous le néoclassicisme moderniste se trouve un rationalisme qui établit un lien avec le classique, moins avec le mouvement qu'avec une esthétique plus générale qui passe aussi pour être moderniste à cause de son antithéâtralité. N'est-ce pas ? Le fait qu'il n'y a pas de décor, ni costume, ni récit. Il n'y a peut-être pas de meilleur exemple à cela que Agon de Balanchine-Stravinsky, et cela a été clairement exprimé dans la critique de John Martin en 1957, lors de la première, lorsqu'il a déclaré, je cite, « En surface, c'est un peu fou, mais il y a une logique irréfutable. Et cela est fait avec une dignité extrême qui n'est pas à nier. » Fin de citation. Les prétendues folies étaient vraisemblablement liées au sentiment de risque auquel Balanchine soumettait les danseurs, et que l'on peut voir dans un premier film de l'œuvre, n'est-ce pas, les danseuses surtout qui tombaient étaient dans le vide en quelque sorte. Évidemment, aujourd'hui, les danseurs ont maîtrisé cela. La dignité d'exécution est ce qui permet de rapprocher l'œuvre éloignée à un esthétisme courtois de maîtrise de soi, malgré les risques imposés. Une composante importante de la capacité de la chorégraphie à transmettre immédiatement la folie et le rationalisme, la dignité et l'indignité, ou le risque d'indignité, est ce qu'elle doit prétendument au XVIIe siècle, comme indiqué dans les documents imprimés sur Agon. Le texte français de 1623, l'Apologie de la danse, a apparemment servi d'inspiration à Balanchine et à Stravinsky. Quelle autre époque que le XVIIe siècle pourrait être apparentée immédiatement au classique et au baroque à la fois? La prétendue folie de l'œuvre peut aussi être attribuée à la présence d'un danseur noir, Arthur Mitchell, dans un duo au centre de celle-ci, un duo dans lequel les conventions du travail entre partenaires sont transgressées de façon radicale, notamment Mitchell soutenant Allegra Kent tout en étant allongé sur son dos. On connaît très bien. Cette innovation formelle et radicale était selon moi une composante du modernisme qui a masqué la déclaration politique consistant à placer un danseur noir, Mitchell, dans le duo. Parallèlement, la présence du danseur noir justifiait l'innovation des plus radicales dont le travail à deux. Ceci dit, il est également vrai que le thème du noir et blanc était simplement accru par la couleur de peau pour que l'expression politique soit effectivement masquée, désavouée, n'est-ce pas, reniée. Je cite Edwin Denby, le critique à l'époque, le fait que Madame Adams, à l'époque c'était Adams, excusez-moi, c'était pas de Allegra Kent, est blanche et que Monsieur Michel noir, n'est ni souligné ni caché. Et cela s'ajoute à l'intérêt d'ensemble. Fin de citation. En dissimulant un geste socialement radical, une femme blanche et un homme noir dans un pas de deux classique en 1957, à New York, sous une variation officielle sur noir et blanc, on appelle toujours les programmes de Balanchine maintenant noir et blanc, c'est-à-dire les ballets néoclassiques, le modernisme désamorce le baroquisme en assimilant le classicisme à de nouvelles possibilités d'innovation formelle. Le ballet du XXe siècle est un endroit unique où le baroque, le classique et le modernisme convergent sous une forme de tension productive où les résultats idéologiques ne peuvent pas toujours être prédéterminés. Si le baroque contemporain a commencé véritablement en 1957, cette même année, comme Pierre Charpentras l'affirme en raison du livre de Victorel Tapier, Baroque et classicisme, la reconnaissance depuis une perspective historique de ce que représentait le baroque au XVIIe siècle dans la culture française dépendait finalement du rôle clé joué par le ballet de cour. Les études littéraires ont permis de découvrir son importance. En 1954, Jean Rousset, en citant le problème du baroque littéraire, a inventé le terme baroquisme pour définir une réalité historique non reconnue et riche d'applications nouvelles. Si Jean Rousset présente le baroque comme un problème littéraire, il s'agit d'un problème que la littérature hérite directement du ballet de cour. Cette provenance est répétée à de multiples reprises dans ce livre. Bien que le travail philologique préparatoire du ballet de cour ait déjà été fait par Henri Prunière en 1914, en se basant sur la publication des livrets de ballet par Paul Lacroix en 1868, Jean Rousset a fait connaître l'altérité de la performance du XVIIe siècle dans le domaine des lettres et a remis en question, quoique avec la plus grande prudence, l'interprétation consacrée du grand siècle. Il convient d'ajouter que Jean Rousset a refusé d'analyser les fondements sociopolitiques d'une telle conception théâtralisée de la production culturelle française et n'a pas demandé pourquoi le ballet de cour et son influence sur les autres arts n'avaient pas été reconnus dans les études littéraires pendant si longtemps. Il est frappant de constater que dans son livre « La littérature de l'âge baroque en France, Circé et Le Pont », les premiers textes littéraires ayant fait l'objet d'études sont les livrets de ballet de cour, et que l'accent a par conséquent été mis sur l'influence du ballet de cour sur la littérature plutôt qu'à l'inverse. Nous pouvons noter un double mouvement avec Jean Rousset, d'abord l'arrivée du baroque dans l'arène sacro-sainte de la culture française néoclassique, et deuxièmement l'irruption du livret de ballet de cour dans le domaine de la littérature française. Jean Rousset situe le baroque français entre 1580 et 1670, entre Montaigne et Bernin ou Puget, et propose qu'il peut s'agir, je cite, d'un moyen fécond d'enrichir notre vue traditionnelle du XVIIe siècle. Fin de citation. Par conséquent, il exprime en 1954, et c'est pour ça que je parle d'intertemporalité, que j'essaie d'être très précis sur les dates, parce que c'est pas un truc pédagogique de date, c'est plutôt une question de mouvement intertemporel et hétérotemporel qui s'accomplit à chaque fois. Il exprime en 54 ce qui a seulement été implicite auparavant dans le siècle, l'existence de ce qu'il a appelé plusieurs 17e siècle parallèles. Donc aussi parallélisme, intertemporalité, mais aussi parallélisme. Sa méthodologie de critique thématique, ce qui est aussi problématique par la suite pour nous, produit une série de termes avec une importation théorique du baroquisme. On connaît, n'est-ce pas, le changement, l'inconstance, le trompe-l'œil, la parure, le spectacle funèbre, la vie fugitive et le monde dans l'instabilité. Je crois que cette approche thématique réifie le sujet et constitue un blocage finalement à l'analyse. J'y reviendrai. Ils sont résumés dans le titre du livre, évidemment, en tant que métamorphose et ostentation, Circé et Le Pont, les caractéristiques de Circé et Le Pont que l'on retrouve dans le ballet court. La reconnaissance du rôle du théâtre et de la théâtralité dans la formation et le fonctionnement de la monarchie absolue était un autre signe de l'influence baroque dans l'interprétation du XVIIe siècle, puisque si le faste pouvait être limité à la théâtralité, sa principale caractéristique devenait artificielle. Ce qui était synonyme, comme Severo Sardou l'a remarqué, d'une artificialisation, c'est-à-dire d'une théâtralisation consciente. Dans ses écrits sur le baroque des années 60 et 70, Severo Sardou a exploité l'importance de la théâtralité que Jean Rousset avait soulignée avec les appareils thématiques de la transformation et l'affichage. Dans la rubrique de la théâtralité, Severo Sardou a pu mesurer ce que cite la prolifération incontrôlée des signifiants. Proliferación incontrolada de significantes, c'était un texte espagnol. Mais la théâtralité s'affirmait aussi en tant que propre moyen, et la question de l'esthétisme, de l'ostentation était lancée. Ce qui sera très important pour Lacan, pour Foucault, enfin évidemment même avant, mais et pour Marin aussi. L'intérêt de la théâtralité en tant que phénomène social, politique et esthétique ouvre sur le problème de la représentation classique, qui est devenu un sujet important de Michel Foucault en 66, avec Les mots et les choses, comme on sait, et Louis Marin en 75, la critique du discours. Tous les deux ayant traité du corps et du langage, le mouvement en tant que signe, dans leurs analyses respectives de la grammaire générale dans la logique de Port-Royal. Ils ont tous deux remis en question la représentation en tant qu'adéquation parfaite du langage et la vérité dans leurs travaux respectifs sur la théorie du langage du XVIIe siècle. L'objectif était de saisir la modernité de la critique de représentation déjà propre aux théories classiques du langage, de la représentation et du mouvement. Il s'agissait du début de la critique du pouvoir qui opère par la représentation, faisant passer pour connaissance ce qui peut être associé au post-structuralisme, mot tant redouté aujourd'hui. William Forsythe a développé cette idée en chorégraphie dans Artifact, en 1984, puisant son inspiration dans le spectacle de ballet du XVIIe siècle. Artifact met en scène la langue et le corps et un continuum qui soulève les questions de mouvement, de signes et de représentation. Évidemment, Forsythe, qui à cette époque surtout était un lecteur avide de Foucault. Artifact s'engage dans une critique du ballet en tant que système classique de la représentation, tout en l'appréhendant en tant que créateur d'espace résistant de la représentation. La fonction politico-sémantique, on y arrive là, de la chorégraphie se trouve dans cet usage du mouvement et du langage pour poursuivre la critique de la représentation ancrée dans le ballet classique et dans la théorie de la langue classique. C'est ce à quoi je ferai référence en parlant de la fonction politico-sémantique du baroque. Mais même dans la stratégie artistique de l'artificialisation de Severo Sardou, il y avait une dimension politico-sémiotique. Comme il écrivait dans Barocco 75, être baroque aujourd'hui signifie menacer, juger et parodier l'économie bourgeoise basée sur une administration radine des biens. La menacer, juger et parodier en son centre même et son fondement, l'espace des signes, le langage, support symbolique de la société et garantie de son fonctionnement par la communication. Nous avons vu que le baroque était soit une façon d'articuler ou de réarticuler le néoclassicisme ou d'opposer ouvertement le néoclassicisme à une perspective philologique. mais il a aussi évolué durant les années 60 vers un concept critique impliquant que le classicisme normatif était toujours déjà une fiction. Donc l'imaginaire théâtral du baroque coïncide dès les années 70 avec sa fonction politico-sémiotique, au travers de sa fonction imaginaire théâtral. En 67, Guy Debord affirmait l'importance parfois excessive évoquée dans les discussions modernes sur l'esthétisme du concept du baroque reflète une prise de conscience croissante de l'impossibilité du classicisme dans l'art et l'impossibilité de la culture officielle. Si le classicisme en art est la même chose que la culture officielle, alors la définition du baroque s'approche de celle de la culture populaire. Marcel Mauss n'avait-il pas dit en 1907, et je cite, « est populaire tout ce qui n'est pas officiel ?» C'est l'idée mise en avant par José Antonio Maraval, qui a désigné le baroque comme étant une culture guidée, donc « culture of the baroque ». Toutefois, nous devons aussi reconnaître que d'après cette théorie, il est guidé par les hautes sphères. Il est intéressant qu'exactement en même temps que cette émergence des travaux importants ont été réalisés dans le domaine de l'ethnographie de la danse. Jean-Michel Guilcher a défendu sa thèse d'État dans la tradition populaire de la danse en Basse-Bretagne en 63, et l'année suivante, Francine Lancelot a commencé à travailler avec lui pour recueillir et présenter des informations sur la danse traditionnelle. Francine Lancelot, qui est finalement devenue une autorité dans le domaine de la danse dite baroque, était une étudiante passionnée de danse traditionnelle. Toutefois, les différences entre Jean-Michel Guilcher et Francine Lancelot n'avaient pas trait à la recherche ethnographique en opposition au décryptage de la notation du mouvement d'élite. Elles portaient sur la performance en tant que représentation. La notion de Jean-Michel Guilcher sur le milieu en tant que créateur de la possibilité même de danse traditionnelle lui a rendu intenable la représentation de la danse ancienne sur scène. La création de la compagnie de Francine Lancelot, Rise et Danserie, qui a obtenu l'appui gouvernemental en 1980 et a coïncidé avec l'année du patrimoine, l'a envoyée dans une direction différente. Nous pouvons voir ici des liens entre la recherche de la danse ethnographique des années 60 et 70 et les productions des années 80. Lancelot déclara que l'intérêt pour la danse baroque a commencé vers 1960. C'est intéressant ça. Elle n'a pas vu dans son succès le lien avec l'année du patrimoine, et je cite, paradoxalement, ce sont les chorégraphes contemporains qui ont favorisé le renouveau de la danse baroque en France. Les postmodernes en France, comme Lucinda Child ou Andy de Groot, intéressés par la composition de parcours géométriques ou Dominique Bagouet en quête de nouveaux codes gestuels, ont contribué à l'intérêt du public jeune pour les formes anciennes. Il s'agit d'un témoignage important sur le mélange entre les expériences de Francine Lancelot dans le décryptage de la notation et la reconstruction de répertoire d'une part, et dans l'expérimentation chorégraphique contemporaine de l'autre. Il est aussi significatif que Francine Lancelot s'intéresse tout d'abord à la danse baroque dans les années 60, et ce qui est précisément la période où elle a commencé sa recherche ethnographique dans le domaine, sur le terrain. Elle voyait manifestement des liens entre la danse traditionnelle, la danse ancienne et enfin la danse contemporaine. La chronologie de Francine Lancelot, qui souligne l'importance des années 60 en tant que point de départ pour l'intérêt pour le baroque, est aussi confirmée dans les travaux de recherche contemporains. L'art du ballet de cour de Margaret McGowan a été publié, rappelons-le, en 1963 au CNRS. Cette étude importante dans la tradition philologique de l'école Warburg de Londres a tiré parti de l'attente, mais écrit en français, c'est intéressant aussi, et jamais publié en anglais, a tiré parti de l'attention accordée à Jean Rousset au ballet de cour en tant que texte littéraire. Margaret McGowan nous a montré qu'il existait un immense corpus de textes de danse, qu'elle a minutieusement répertorié, en organisant avant tout le corpus de littérature sur la danse de la fin du XVIe siècle jusqu'à le début du XVIIe. Toutefois, elle n'a pas insisté sur la valeur littéraire du livret en soi, mais sur son esthétisme par rapport à l'histoire politique. L'art du ballet de cour en France a établi une base solide de recherche pour l'historiographie de l'esthétisme de la danse au début de la période moderne, early modern, en se reposant sur l'analyse des textes. Le ballet de cour se positionnait comme une forme d'art, comme l'indique clairement le titre du livre. En outre, dans Politique et art, en outre, il a été démontré que la forme d'art avait sa propre histoire, qui pourrait être retracée par une recherche textuelle. Bien que McGowan n'ait pas été directement intéressée par la reconstruction de la danse, elle a démontré combien les textes pourraient contribuer à une compréhension de l'esthétisme de la danse, bien que le contexte de la vie de cour a fait également du livre une histoire sociale de la représentation par rapport à la politique. La Société de cour de Norbert Elias a été traduite en français à partir de l'allemand en 1974. Die Hofische Gesellschaft, même s'il ne s'est pas concentré sur la danse, mais sur les manières, et en quelque partie sur l'architecture, Norbert Elias a donné une nouvelle orientation à l'idée que le XVIIe siècle n'était pas seulement marqué par certains principes de mouvement, mais que tous les principes de mouvement se basaient sur les impératifs sociaux. Je cite, « Ce qui est raisonnable et rationnel dépend essentiellement des structures de la société. Ce que nous appelons par un souci d'objectivation la raison n'est autre chose que notre effort pour nous adopter une société donnée, nous y maintenir par des calculs et des mesures de précaution et y parvenir en dominant provisoirement nos réactions affectives immédiates. » Fin de citation. L'esthétisme de la danse, qui a joué un rôle dans les usages et l'économie du prestige, a montré la danse par extension sous une lumière radicalement différente de ce qu'il n'était possible sous le rationalisme classique ou du point de vue du classicisme. N'est-ce pas, forme permanente. Avec Norbert Elias, nous nous sommes soudainement retrouvés dans une zone anthropologique ou sociologique, où la cour devait être appréhendée tel un milieu, avec le sens donné à ce terme par Jean-Michel Guitcher. À partir de là, la théâtralité comme diffusion du prestige et l'interaction de l'esthétisme avec les points de vue sociaux et politiques ouvre la porte à une vision moins rationnelle et plus historicisée du grand siècle. Il est intéressant que Philippe Lemoyle, dans son étude sur la mémoire de la danse, en 93, ne mentionne aucun de ses livres par rapport à la question de la danse et de la mémoire, malgré qu'ils aient été disponibles en français depuis un certain temps. Il est à noter ici le problème de la danse par rapport au passé, qui est devenu une question politique en France au début des années 90. Ce que je veux souligner ici est qu'une série de recours au XVIIe siècle, tout au long du XXe siècle, sous les auspices du baroque, maintenant vers les années 80 et 90, a joué un rôle dans la culture contemporaine qui était en préparation par le biais de la littérature, l'histoire de l'art, la sociologie, pendant plusieurs décennies, mais qu'il ne s'agissait pas en réalité de conserver le patrimoine. Celui-ci a été propulsé par des questions plus contemporaines. La danse du XVIIe siècle avait bel et bien déjà disparu. Les deux branches de la danse qui étaient sous menace immédiate de disparition étaient la danse populaire, qui disparaissait rapidement après la Deuxième Guerre mondiale, Jean Guitcher en parle, et au début des années 80-90, la danse contemporaine des années 80, dont les rangs étaient décimés par la crise du VIH-Sida. C'est dans ce contexte que le problème de la mémoire de la danse en tant que forme évanescente a convergé avec une sensibilité baroque qui a apporté une réponse face à la perte et à la catastrophe. En 1984, Christine Bussig-Luxman a présenté le baroque comme une imaginaire de l'histoire et, je cite, une construction d'une image de l'histoire. Évidemment, Bussig-Luxman a écrit les livres importants sur Benjamin, donc la suite immédiate de la traduction française de Benjamin en français. Situant ainsi le phénomène baroque des années 80 depuis une perspective résolument benjaminienne. Pour Bussig-Luxman, l'histoire de Benjamin était, je cite, une lutte philosophique pour un passé opprimé, une conception de l'histoire adéquate aux états d'exception. Le baroque a apporté une réponse plutôt face à la perte de la danse dans une situation d'urgence qu'à sa nature essentiellement éphémère. Il me semble que c'est de cet ensemble d'influences que sont nés dans les années 80 les travaux de Francine Lancelot sur scène. Derrière les travaux pour la compagnie Grise et Danserie, se trouvent des années de recherche ethnographique en danse populaire, mais aussi une passion pour déchiffrer les signes de la notion du mouvement, comme on sait. Considérée une des premières productions pour Grise et Danserie, Bal à la cour, 1980. Dans ce travail, nous avons eu droit à un vaste répertoire de périodes de danse dans le contexte d'un bal plutôt que d'un ballet. Dans ce bal de cour, les relations entre les danseurs, les intrigues, les manières, les affronts, les suspicions, etc., étaient toutes représentées chorégraphiquement dans le cadre où la danse avait lieu. Bal à la cour, la cour, hein, c'est comme Benjamin disait, la cour triste, si vous voulez. Bal à la cour était en ce sens un travail sur le répertoire appuyé par une situation dramatique et ne suivait aucun récit pourtant. La théâtralité est mise à l'œuvre dans Bal à la cour afin d'historiciser la danse du XVIIe siècle en tant que pratique provenant d'un milieu dont le trait caractéristique est l'autoreprésentation. Donc on a là cette espèce de mélange de milieu ethnographique et autoreprésentation. Théâtralité, artificialisation, mais milieu ethnographique. Je crois que c'est très important ça. De cette manière, la cour a été représentée comme un milieu sociologique plutôt qu'un lieu mythique, régi par des principes classiques. Le travail de danse a été présenté comme un regroupement des archives du répertoire de pas plutôt que des archives textuelles des ballets de cour, et le danseur devait avoir pour compétence une formation classique additionnée d'une étude spéciale. Mais l'aspect principal est que la scène des tensions sociales qui a constitué la danse à la cour était celle où le pouvoir, le plaisir, les censures changeaient constamment de place et s'altéraient mutuellement. Si le corollaire politique de la soi-disant forme permanente de T.S. Eliot est une souveraineté imperturbable, c'est alors cette souveraineté qui était questionnée d'un point de vue historique. La notion de la cour en tant que réseau social présuppose une analyse sociologique du prestige, d'ostentation et d'autosuffisance en tant que forme distinctive de la récupération néoclassique de la soi-disant forme permanente. La forme est bien entendu représentée ici, mais c'est elle qui a apporté un caractère étrange et fondamental et qui était appuyée d'un point de vue dramaturgique, non par le mythe, mais par l'analyse sociale de la danse dans son milieu de la cour. Plus frappant encore, dans Bal à la cour, et la présentation de la cour en tant que milieu, d'un point de vue ethnographique, comme je viens de le dire, comme l'a proposé Jean-Michel Guichard, en parlant évidemment d'un autre milieu, comme condition de la possibilité de la danse traditionnelle. Il s'agit, dans une certaine mesure, du résultat de la direction, dans ce cas de Lucien Melki, de cette production, mais qui correspondait également avec les intérêts marqués de Lancelot pour la danse populaire. Je ne fais pas uniquement référence ici à l'aspect de reconstruction de la chorégraphie, mais aussi à l'analyse sociopolitique de la mise en scène. Bal à la cour apportait une réponse au néoclassicisme, puisque le pouvoir était considéré comme un élément négocié dans la cellule sociale de la cour, au lieu de dépeindre une danse classique en tant que réification du pouvoir. À partir de ce moment-là, la relation de la danse avec le pouvoir devait être considérée comme un phénomène spéculaire et intersubjectif. C'est-à-dire, je veux raccorder ici la théâtralité dont on a parlé, qui arrive avec Severo Saldù et qui se poursuit avec Rousset, etc., etc. Raccorder cela à la notion du sujet, psychanalytiquement parlant, aussi bien que sociologiquement parlant. Il me semble qu'il y a un nœud là qu'il faut vraiment interroger. Il y a des choses qui sont, d'une certaine façon, quasiment évidentes, qui ne sont pas du tout évidentes. Il faut les développer beaucoup plus. Donc, une société constituée par l'autoreprésentation, c'est un fait ethnographique, ce n'est pas un fait mythique, quoi. Et psychanalytique, comme Lacan a bien montré dans sa réponse à l'analyse de Foucault de Las Manias. En tant que milieu... ces travaux et l'usage en découlant du terme baroque au début des années 80 ont contribué à l'association de la danse du XVIIe à la production artistique postmoderniste. Comme un critique l'a écrit sur les travaux de Lancelot en 87, Je cite, cette faveur assez récemment accordée aux danses anciennes, et plus particulièrement baroques, paraît confirmer que la danse contemporaine s'entête à rejeter toute généalogie qui la ferait descendre en droite ligne du ballet académique et romantique. Bon. L'opinion du critique se confronte à la considération de Philippe Lemoyle sur la crise de la danse et de la mémoire qui commence avec Louis XIV en tant que moment fondateur du classicisme, l'Académie de danse de 1661, et se poursuit en dénommant l'initiative de Francine Lancelot, la première, selon lui, depuis Louis XIV, à revenir sur la question de la danse, de l'écriture et de la mémoire. C'est, on a Louis XIV et Francine Lancelot. Le verdict du critique revêt un sens supplémentaire si l'on considère que la danse contemporaine française commençait à gagner en visibilité en France, si je ne m'abuse, et à se distinguer de la danse moderne américaine, notamment de Cunningham et de Nicolais, à ce moment-là, en 87, Francine Lancelot remarquait que le retour du baroque était, et je cite, une lutte contre l'uniformité de la danse moderne américaine. En séparant la danse du XVIIe siècle du classicisme-néoclassicisme, le critique de Libération a reconnu que le baroque, comme pratique contemporaine, était un passé utilisable, soi-disant. La danse postmoderne, pour ce critique, pourrait percevoir le 17e comme une inspiration sans adhérer à l'association néoclassique du 17e siècle avec l'académisme. Donc, du 17e siècle parallèle, comme l'avait bien remarqué Rousset en 54, précisément. Voilà la cour et le résultat. On est dans le vertige, quoi, en quelque sorte. Balalacour est le résultat d'un travail de recherche qui utilise la théâtralité pour projeter un point de vue critique sur la société de la cour, une société qui n'est plus perçue comme une origine institutionnelle et un endroit légendaire de classicisme, mais comme un milieu, comme je l'ai bien souligné. Le lien entre l'érudition philologique comme celle de McGowan ou Elias d'une part, la théâtralité comme manifestée par Sardouille et enfin par Benjamin, et par conséquent tardivement affirmée d'autre part par la notion de milieu historique provenant de Gitscher, une fois que la danse du XVIIe est anthropologisée et non historicisée ou mythifiée, elle pourra servir un objet dans l'époque contemporaine. Un objectif dans l'époque contemporaine. Parallèlement, l'engagement de Lancelot dans le décryptage de la notation la met en adéquation avec une tradition philologique ou textuelle, évidemment. Et il convient de noter que dans sa pratique chorégraphique, le textuel, le chorégraphique et l'ethnographique sont mise en harmonie. Une fois que ces dimensions distinctes et mutuellement exclusives de l'imagination historique se superposent l'une à l'autre, une création que l'on peut appeler baroque en danse a vu le jour. Toutefois, je pense que nous devrions être prudents et éviter d'assimiler cette synthèse à une forme de libération, comme le fait la critique de la libération. D'après ce critique, avant la création des académies, au XVIIe, le roi était une figure gigantesque de liberté. Je cite le sujet de 87 toujours. Le sujet de la danse est un corps souverain, balançant entre profane et sacré, un corps idolâtré, un corps émancipé de toute volonté de formalisation, non encore institutionnalisé, et libre de s'exprimer sous la forme éminemment imprévisible du caprice. Tel est en effet le corps du roi. Il ne fait aucun doute que le baroque, sous forme de burlesque, précéda l'ère classique, j'en ai parlé dans la danse contexte, mais cela ne peut expliquer le phénomène du baroque en danse contemporaine des années 80, car ce dernier est le résultat d'une histoire provisoire et intermédiaire. Cela sans exclure ce que Mika Ball, dans son livre Quoting Caravaggio, dénomme une refonte des anciennes images et ce qu'elle désigne comme, je cite, la contemporanéité entre le sujet contemporain et le sujet historique. Mais lorsqu'envisagé comme une façon d'interpréter Balalacour, cette explication n'est pas suffisante. Au lieu de cela, la notion d'une grande liberté dans le contexte d'un régime autoritaire porte à croire que l'état d'exception de Carl Schmitt et le retour à la monarchie de Charles Maurras seraient plus probables qu'une condition postmoderne de liberté. Dans Balalako, il s'agit d'une question de cours, une société fermée, et de limites sociales ainsi que de projections imaginaires. Ce que le 17e avait à offrir à la théorie de la danse à ce moment-là était la fusion de l'incarnation du pouvoir et de la spécularité. En 68, Pierre Legendre a suggéré que la danse révélait, je cite, un amour politique sous forme de transfert sur l'institution. C'est pas la passion d'être un autre. Par conséquent, nous trouvons dans les années 80 la possibilité d'une compréhension politique et psychanalytique approfondie de la danse qui utilise le 17e comme un contraste par rapport auquel envisager la scène contemporaine. Le baroque est en ce sens non seulement classique, néoclassique, folklorique, populaire, traditionnel, postmoderne ou strictement archivistique, mais aussi un amalgame de tous ces éléments. La danse baroque, à ce carrefour historique, s'est imprégnée des caractéristiques de la formation discursive. Antimoderniste dans le sens où elle rejette la sphère de l'intemporalité sans dimension historique propre à la danse moderne, anti-ballet dans le sens où elle rejette l'intemporalité historicisée propre à l'adoption par le ballet de principes immuables, la forme permanente, anti-bourgeois dans le sens où elle était référence, où elle fait référence à l'économie de gestes propres aux pré-bourgeois, et toujours archivistique ou philologique, car elle se base sur le décryptage de textes, au moins comme point de départ. C'est la non-contemporanéité du baroque qui lui vaut son émergence dans les années 80, avec une dimension critique distincte et caractéristique de la formation discursive de la danse en tant que façon de penser à travers une histoire dans et du présent. Donc, je conclue. Le baroque français n'avait aucune crédibilité en France en tant qu'idée pendant la première moitié du XXe siècle, s'affirmant uniquement dans la période d'après-guerre, en tant que conception alternative, clairement non classique, du XVIIe. Les différences sur la façon dont il était fait référence au XVIIe, à plusieurs moments du XXe siècle, n'étaient par conséquent pas seulement une question d'étiquette à poser à des périodes. Le baroque des années 80 était un rejet absolu du classique en tant que catégorie culturelle viable, en tant que terme théorique et pratique applicable à la fois à l'histoire culturelle française et aux pratiques d'art contemporain. Le baroque de la moitié et la fin du XXe siècle représentait une allégorie historique du postmodernisme vu que la modernité en France a été placée en second plan à la faveur du grand siècle et a été dans ce domaine dominé par un classicisme à peine voilé par le néoclassicisme. N'est-ce pas là, je fais référence au fait que en 22, vaguement, le néoclassicisme déplace le modernisme en art et en danse. Tout cela pour dire que le baroque en tant que concept marquant une période a déplacé le classique dans deux catégories essentielles. Dans le XVIIe siècle, histoire, et le XXe siècle, néoclassicisme. Autrement dit, le baroque a remplacé la conviction selon laquelle le néoclassicisme aurait modernisé le classique avec l'idée que le néoclassique n'aurait rien fait de plus que de classiciser le moderne. C'est pourquoi la danse baroque a été une alternative au modernisme en apportant une version différente de l'histoire plutôt qu'une rupture historique avec le passé. Cette forme alternative d'histoire est le résultat de recherches sur les fonctions et l'agence sociologique de la théâtralité et psychanalytique de la théâtralité et d'une critique de la représentation classique par une méthodologie de réarticulation d'une part, hein, c'est Foucault et Marin, et c'est aussi une théorie de la réarticulation. La déconstruction, c'est une théorie de la réarticulation aussi. Et la reconstruction apportée par la mise en scène d'une part. L'association de la sociologie et du théâtre à l'aspect articulatoire et reconstructif a entraîné une exploration psychanalytique du corps, du pouvoir, de la représentation qui est venue à l'appui à la souveraineté politique et à la souveraineté de la danse en tant qu'art. Qui est venue en appui à la souveraineté. Et peut-être qu'il a aussi dénié. Je crois qu'il y a un problème de traduction là. Merci beaucoup, voilà. Mmh.